Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Quand Jésus se met en colère, c'est une sainte colère. Et l'Église, depuis ce jour-là, se pose des questions sur cette sainte colère du Christ. Parce qu'elle n'est pas comme nos colères, vous savez, qui nous font regretter après coup les gestes qu'on a pu avoir, les paroles qu'on a pu avoir. Jésus sait très bien ce qu'il fait. Il ne perd pas la tête, il ne dérape pas. Il a prévu ça depuis longtemps, puisque dans l'Évangile, on nous dit que un peu avant cet épisode-là, il est entré dans le temple et il a commencé à regarder ce qui se passait. C'est prévu, cette colère du Christ. Elle est pédagogique. Elle est pour les auditeurs de son temps et elle est pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, les auditeurs de son temps, au moins les meilleurs d'entre eux, qui sont donc des Juifs, qui prient dans ce temple, ils ne disent pas, comme nous, nous pourrions le faire, comme les journalistes pourraient le faire, « Ah, c'est un dérapage, ce prophète a perdu la tête, il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer. » Non, ils lui disent, il lui pose la question, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Vous voyez, il ne le condamne pas. Il se demande si ce que fait Jésus n'est pas un signe qui vient de Dieu. Et effectivement, eh bien, il avait déjà donné la réponse en disant « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Jésus n'a rien contre la vie pratique de la religion. Il a chassé les vendeurs, les marchands de colombes, alors que 30 ans auparavant, lorsque petit bébé, il avait été porté dans un geste religieux d'obéissance à la loi, il avait été porté dans ce même temple, son père et sa mère avaient apporté deux petites colombes, qui montraient d'ailleurs qu'ils étaient assez pauvres, puisque les autres portaient des bœufs et des agneaux. Donc Jésus n'a rien contre nos gestes religieux, contre le fait qu'on achète ou qu'on vende ses produits, des bougies, des choses comme ça. Mais il veut que la maison de Dieu, et c'est donc cette église ici, comme tous les lieux dans lesquels nous prions, que cette maison de Dieu, la préoccupation principale de ceux qui gèrent ces maisons et de ceux qui viennent dans ces maisons, dans ces temples, ce soit de rencontrer Dieu, cesser de faire de la maison de mon Père. Nous sommes ici dans cette église, pas pour faire des gestes, nous sommes ici pour rencontrer Dieu le Père et du coup son Fils, Jésus-Christ, qui a même comparé le temple à son corps. Il parlait non pas des pierres du temple, quand il parlait de le détruire et de le rebâtir, il parlait de son propre corps. Et dans cette église, ce matin, nous allons communier à son corps, recevoir son corps, qui est beaucoup plus important que tous les beaux objets qui meublent et qui décorent cette église. Parce que justement, le risque, c'est de faire de Dieu un décor. Et quand on prépare son mariage, on a beaucoup de soucis. Il y a les questions administratives, il y a les questions des invités, il y a les questions du repas, de la soirée, de la musique. On a beaucoup, beaucoup de soucis et c'est normal parce que la fête fait partie du mariage et fait partie de notre vie de temps en temps. Et quand je dis de temps en temps, il y a des temps qui sont particulièrement importants comme le jour du mariage. Mais si on n'a pas compris que tous ces soucis-là sont faits d'abord pour rencontrer celui qui est à la source de notre amour, on n'a pas compris. Et c'est pour ça que vous faites une préparation ici avec cette paroisse pour que justement la dimension pratique et nécessaire de votre préparation au mariage soit au service de l'essentiel, c'est que vous receviez de Dieu la force de vous aimer pour toute la vie, c'est le sacrement de mariage, que vous receviez cette bénédiction que Dieu seul peut donner, et que vous receviez la volonté d'aller jusqu'au bout pour nourrir votre vie. Donc voilà, le Seigneur, en ce temps de carême, veut nous faire remonter à la source, il veut toujours nous purifier. Et c'est pour ça, remonter à la source, que l'on a entendu les 10 commandements, que les Juifs d'ailleurs n'appellent pas les 10 commandements, ils les appellent les 10 paroles. Parce que la première parole pour les Juifs, et comme on vient de l'entendre, c'est pas d'abord un commandement, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Là encore, c'est Dieu qui se présente pour qu'on le rencontre. On ne respectera pas ses commandements de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas convoiter, de respecter le repos un jour sur 7 si on n'a pas d'abord rencontré Dieu. C'est la même chose, on ne respectera pas les commandements qui font qu'un couple va durer pour la vie, de la fidélité, de la prudence, de l'attention, de l'ouverture aussi aux autres pour que le couple ne se replie pas sur lui-même, de l'accueil des enfants, de l'éducation des enfants, leur donnant le meilleur. Et comme on le disait ce matin, le meilleur c'est aussi une nourriture spirituelle, donc du catéchisme, donc une éducation spirituelle. On ne fera pas ça si on n'a pas rencontré Dieu, bien sûr, si on n'a pas découvert qu'il nous a créés par amour et qu'il nous aime tellement que lorsque nous nous éloignons de lui, il vient nous chercher, et lorsque nous sommes presque complètement séparés de lui par le péché, quasiment déjà en enfer, il va descendre jusqu'aux profondeurs des enfers, de la mort, pour nous faire ressortir dans la vie éternelle, pour nous ressusciter et pour réparer. Et ça, c'est là aussi la bonne nouvelle qui concerne le mariage et toutes nos vies. Dieu est capable de tout réparer, c'est ça qu'il dit lorsqu'il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Il ne parle pas du temple qui était magnifique parce qu'il est détruit. Et à la place, il y a une mosquée et donc les Juifs ont beaucoup de mal à venir prier sur leur propre lieu saint. Et les chrétiens aussi. Mais Jésus avait dit à la Samaritaine, ce n'est pas à Jérusalem ou ailleurs que vous irez adorer, c'est partout où vous pourrez adorer Dieu en esprit et en vérité. Et donc la question c'est, est-ce que justement avec mon corps, je vais rencontrer le Seigneur là où je suis, là où se trouve mon corps, et est-ce que je vais nourrir mon corps, mon âme, mon esprit par son propre corps, c'est-à-dire par l'Eucharistie, par la communion, et est-ce que j'accepte que si mon corps, mon âme, mon esprit est très abîmé, parfois même démoli par la vie, et pas toujours par ma faute. Parce qu'un des drames, je discutais hier avec l'exorciste de notre diocèse, qui avait exorcisé il y a peu de temps un enfant de 3 ans possédé du démon. Mais il est libéré, il va très bien maintenant. Mais c'était très impressionnant ce qu'il a vécu. Et il me disait, parfois des victimes du mal, spécialement dans ce qu'on appelle les abus, et je ne détaille pas, les victimes du mal se sentent coupables. Non, justement, le Seigneur veut nous rebâtir, nous montrer qu'on n'est pas coupable de tout. Quand on est coupable, oui, on demande pardon. Et quand on n'est pas coupable, eh bien, on n'a pas à se déclarer coupable, on a à entendre le Seigneur nous dire « Mais non, tu n'es qu'une victime, et j'ai donné ma vie pour toi, pour que tu sois rebâti, pour que tu sois restauré. » « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai », c'est pour Jésus, hein, qui au bout de 3 jours a ressuscité le dimanche de Pâques. Et dans notre assemblée, nous avons la joie d'avoir des personnes qui seront baptisées pendant cette nuit de Pâques. C'est merveilleux de penser cela, et parmi eux, un couple qui se prépare au mariage. Et d'autres encore, et bien d'autres personnes encore. Voilà, c'est ça ce que fait le Seigneur. Il nous rebâtit, il nous relève. Donc, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle. Et du coup, nous serons, bien sûr, attentifs à ces commandements que je vous invite à relire, hein, les commandements, et à voir ce que l'Église nous dit de ces 10 commandements, de ces 10 paroles de vie du Christ, parce qu'elles nous concernent aujourd'hui, demain, et que dans l'éternité, on n'aura plus besoin d'essayer de les mettre en pratique, puisque on sera dans une vie tellement différente, et c'est en cela que notre vie sur terre et parfois un peu comme un long carême hein, pour certains. C'est-à-dire beaucoup de choses que l'on sème, dont on verra la moisson seulement au ciel, mais heureusement que de temps en temps, on voit un petit peu quelques belles moissons. Je termine justement avec une simple moisson que j'ai vécue cette semaine. C'est une grand-mère, vous savez, les grand-mères, elles jouent un rôle important, hein, les grands-parents. Une grand-mère qui vient jeudi dernier au Camville, à la messe du jeudi soir, de 6 heures. Et juste avant la messe, elle me présente sa petite-fille, que je ne connais pas, puisqu'elle habite loin d'ici. Et elle dit à sa petite-fille, « Allez, allez, dis-lui. » Et la petite-fille me dit, « Comment est-ce qu'on peut se faire baptiser ?» Donc ça fait longtemps, peut-être même des années, je crois qu'avec sa grand-mère, elle parlait du baptême. Et un jour, la grand-mère lui a dit, « Eh ben, on va y aller. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. On va aller voir à l'église comment ça se prépare. » Et je l'ai renvoyée, puisqu'elle est étudiante à Marseille, vers l'équipe qui s'occupe de cela à Marseille. Et ça, vous voyez, c'est ce qui est semé patiemment, c'est-à-dire d'abord la foi de la grand-mère, sa prière, ensuite ses discussions avec sa petite-fille, et puis ensuite l'inspiration, allez, c'est le moment, on y va. Et je peux vous dire que le visage de la petite-fille, c'était un bonheur de la regarder, de voir comment elle avait franchi une première étape vers le baptême. Et ça, c'est déjà une petite moisson qui n'est qu'un avant-goût de ces joies que nous aurons à nous retrouver les uns et les autres dans le ciel, ressuscité avec le Christ. Amen.